cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jean-d'Arc le 25 octobre 1995.
La dernière fois, nous avions commencé ce problème très important, je crois capital aujourd'hui. Essayer d'entrer dans ce qu'est, ce que représente, ce qu'est la personne, ce qu'elle représente et ce qu'elle est. C'est un problème complexe, pas simple. La personne est un tout. Saint Thomas dit ça, un tout. C'est pas un principe. Il n'y a pas un principe de la personne, c'est un tout. Ce qui explique du reste, comment, petit à petit, nous devenons une personne. Dès notre conception biologique, et puis information de l'âme. Notre nature humaine est donnée. Mais notre nature humaine, elle demande de croître. La croissance est capitale. Si on restait toujours un petit embryon, ce serait pas très commode. On grandit et c'est cette croissance qui est ordonnée à la personne. Essayer de découvrir au plan métaphysique. Et c'est cela que la scolastique décadente, thomiste, aussi bien que suarésienne et Don Scott, disons la scolastique du Moyen-Âge, a oublié. Je ne sais pas si c'est volontaire, je crois pas. Je crois que c'est parce que Thomas d'Aquin était condamné par la Sorbonne. Ça, c'est une opinion personnelle. Je ne peux pas le prouver. Je crois que la condamnation de Thomas d'Aquin par la Sorbonne est beaucoup plus importante qu'on le pense. Parce qu'au fond, si on est très attentif à la pensée de Thomas, on voit que le problème de la personne a sûrement été au cœur de sa recherche. Et que ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il a vraiment explicité ce qu'est la personne au plan métaphysique. Et comme il n'y a pas eu de successeur de Thomas d'Aquin, de vrais disciples de Thomas d'Aquin, ce qu'il a saisi au terme est resté sans lendemain. Alors que si Thomas n'avait pas été condamné, je crois que le De Potentia, puisque c'est dans le De Potentia de Thomas d'Aquin, aurait servi comme d'un point de départ d'une recherche importante. Alors on est resté à la somme. Donc on est resté à la théologie. La question disputée pour Thomas d'Aquin, ce sont des questions qui réclament comme de fait on cherche une question disputée. C'est pas la somme. La somme, c'est pour les débutants. Pas trop de questions disputées pour les débutants. Pour les débutants, on leur donne des voies d'accès et puis allez-y. Tandis que pour arriver à pénétrer pleinement la pensée de Thomas d'Aquin, les questions disputées jouent un rôle très important. Vous voyez, c'est un fait, ça. Un fait que la scolastique Smith n'a jamais regardé la personne au niveau métaphysique. Pour vous en rendre compte, prenez, je vous ai déjà dit, c'est un petit témoignage, prenez les derniers manuels scolastiques. C'est intéressant. Évidemment, c'est un peu mort. Mais ici, c'est un témoignage. Regardez Macquart, regardez le père Gardeille, Henri Gardeille, sur la métaphysique de saint Thomas. Mais la personne n'y est pas. Alors, il y a un creux. C'est pas dans Occam que vous trouverez une métaphysique de la personne. Ce n'est pas au XIVe siècle, ni au XVe. Mais alors, il y a des problèmes nouveaux qui se font à partir de Descartes. Il y a un tournant. Et de fait, comme la philosophie ne réfléchit plus sur la personne, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ça va être le développement des sciences humaines, qui commence par la psychologie. Et on a ce que je vous citais la dernière fois, quelque chose d'intéressant, mais ce n'est pas philosophique. C'est au niveau psychologique, c'est au niveau descriptif, c'est au niveau des dispositions. On a Charles Audier qui essaie de comprendre la structure de la personne humaine, la genèse de la personne humaine, les conditions nécessaires pour que la personne humaine psychologiquement existe. Sécurité, autonomie, valorisation. Et je crois ça très intéressant, mais ce n'est pas métaphysique, pas du tout. C'est descriptif, on peut se tâter le pouls. Tâter le pouls en vous, quelle est votre sécurité? Pour cela, vous luttez contre l'angoisse. Constamment, vous devez lutter contre l'angoisse. Autonomie, vous luttez contre l'aliénation. Et puis, le point de vue de la valorisation, vous luttez contre la culpabilité. La culpabilité, vous savez bien, c'est une angoisse différente de l'angoisse habituelle. C'est autre chose, la culpabilité. Tout ce que j'ai fait jusque maintenant n'est rien, c'est mauvais, ça a été entamé. Et c'est vrai ça. On voit des personnes qui arrivent à un âge avancé qui disent jusque maintenant tout ce que j'ai fait c'est rien. Et c'est, spirituellement c'est très beau et c'est très vrai. Le bon serviteur dit qu'il n'a rien fait du tout. Je me souviens le père de Houille me disait à la fin de sa vie. Je n'ai pas parlé sur la Vierge Marie comme j'aurais dû en parler, aurait-on cessé d'en parler. Et au fond, on voit très bien, parce que plus on avance, plus on voit ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on n'a pas fait. D'où la culpabilité. La culpabilité, c'est ça. Alors quand la culpabilité devient maladive, elle arrête. Elle fait qu'on... c'est un frein terrible, la culpabilité. L'aliénation est un frein terrible. Et l'angoisse, peut-être encore pire, je sais pas. Angoisse et culpabilité, ça se touche. Parce que pour la culpabilité, c'est une angoisse. C'est une angoisse du passé. Alors que la véritable angoisse, c'est pour le futur. L'angoisse, c'est tout ce qui doit arriver. Bon, c'est très intéressant de voir ça. Mais ça ne dit pas grand-chose au point de vue philosophique. Si on le pense vraiment, il y a quelque chose. On ne doit pas négliger. On ne doit pas négliger la psychologie. Mais on doit faire attention que la psychologie moderne est très, très marquée de freudisme. Et dès que vous voyez le point de vue freudien, vous pouvez être sûr que c'est dans une espèce de dialectique qui est fausse. C'est intéressant, mais c'est faux. Et au fond, la psychologie moderne est très, très marquée par Freud. Même ceux qui disent qu'ils ne sont pas freudiens le sont quand même. La dialectique freudienne, c'est très simple. C'est essayer d'avoir un moi fort. passer du S au surmoi pour acquérir le moi. Et c'est ça la dialectique. Et on voit très bien que on part de l'indétermination. Il y a quelque chose de juste, puisque il y a la croissance, et donc la croissance présuppose la potentialité. Mais cette potentialité de notre nature humaine est une potentialité qui implique une détermination et une finalité. Notre nature humaine, notre âme spirituelle, est quand même ordonnée à une certaine fin. Alors vous avez un effort très louable. Vous avez Jacques Maritain, je le cite parce que c'est quand même un thomiste. Il veut l'être. Jacques Maritain a été converti par un dominicain, converti par Dieu, par l'Esprit Saint, mais grâce à un dominicain, grâce au père Garrigou Lagrange et le père de Haut. Il y a trois dominicains autour de lui. Je l'ai bien connu, du moins bien. Surtout par le père de Haut. Et Jacques Maritain a compris que le problème de la personne était capital. Ça, il faut le reconnaître. Dans tout le contexte, Maritain est un converti, il ne faut pas oublier. Un converti qui a été converti par Bergson. C'est pour ça qu'il a toujours eu comme une certaine influence de Bergson. Il est sorti du positivisme par Bergson. Parce que sûrement que l'itinéraire de Bergson, à ce point de vue-là, est très intéressant. Parce qu'il nous montre la manière dont on sort du positivisme. Et Maritain, alors, a essayé de préciser ce qu'est la personne.
Voyons, c'est ma vie biologique, ma personne, elle n'a rien à faire avec la tartine.
cause. On dit la nature, elle est déterminée, autonome, ce qui n'est pas vrai. La nature humaine n'est pas déterminée, autonome, puisque la nature humaine implique l'intelligence et la volonté. Et c'est justement l'intelligence et la volonté qui est un dépassement de cet autonome. Je choisis ma fin. Et c'est naturel de choisir ma fin. La nature humaine applique ça. Alors il prend nature au sens éthique, dans une perspective métaphysique. Alors, la nature humaine dans une perspective métaphysique, c'est l'intelligence et la volonté qui ne sont pas déterminées à nous. Ah oui, on voit. Et pour lui, c'est la personne qui implique un choix. Mais la nature implique un choix, la nature humaine, puisqu'elle est spirituelle. Alors, c'est intéressant. C'est pour ça que je lis ce texte. C'est intéressant pour éviter cette vision. Vous voyez, je crois qu'on devrait, si on pouvait le faire aujourd'hui, on devrait montrer que saint Thomas, c'est le théologien de la personne. On a dit toujours le théologien de la nature parce qu'on dit c'est aristotélicien. Mais faisons attention, la nature chez Aristote est vue d'une manière très analogique. Et la nature humaine est justement une nature qui implique l'intelligence, qui implique la volonté, qui implique un choix moral, qui implique une intention de vie. Et la nature humaine, c'est très vrai, elle est une détermination première. Je suis né avec une nature humaine. Et non pas une nature angélique. Je peux avoir toute ma vie une nostalgie de la nature angélique. Alors j'essaierai de quitter mon corps pour être un ange. Quelquefois ça fait partie de ces nostalgies. Mais ça c'est faux. Ça fait un peu la nostalgie de Platon. Platon a rêvé toute sa vie d'être un ange. Et il a cru qu'il l'était. Parce qu'il était de race royale. Donc, et impériale. Et alors il a cru. Il a cru que c'était ça l'idéal, quitter son corps. Ben non. Quand vous quitterez votre corps, vous pleurerez sur votre corps. Mon pauvre vieux, il reste là, lui, dans le ciel, dans la terre. Et Dieu réparera ça en glorifiant le corps. Et cette vision philosophique va contre le mystère de la résurrection. Si le corps est quelque chose qu'on doit abandonner, Dieu ne va pas le récupérer par la résurrection. Si au contraire mon corps fait partie essentielle de ma personne, alors c'est normal que Dieu me punit par la mort. C'est une punition, la mort. C'est une punition. C'est pas entièrement naturel. Biologiquement, c'est naturel. Mais l'homme ne s'explique pas par la biologie. Il s'explique par l'esprit. Il s'explique par la volonté. Et pour la volonté, l'intelligence, la mort n'est pas entièrement naturelle. Et c'est parce que justement c'est une peine. Dieu, dans sa grâce d'amour, va permettre qu'un jour mon corps... Oui, c'est tous ces problèmes-là qui sont présents dans cette conception de la personne humaine. Et Maritain, c'est très beau de son temps d'avoir essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que la personne et de la comprendre au niveau métaphysique. Il a ce souci-là, il faut le reconnaître. Et ça, c'est bien. Alors, je continue cet autre passage. Vous voyez, ce passage que je viens de vous lire, c'est dans De Bergson à Thomas d'Aquin, page 190. De Bergson à Thomas d'Aquin. Il y a en nous, animaux raisonnables, un désir naturel qui n'est pas précisément de nous, mais d'un élément transcendantal en nous, à dépasser la condition humaine, ce qui ne veut pas du reste sans quelques accidents et nous fait trop souvent désirer d'être des animaux déraisonnables. Mais précisément parce que ces aspirations à dépasser la condition humaine ne sont pas des aspirations de notre nature spécifique, mais seulement d'un élément transcendantal en nous. transcendantal, il fait partie de notre nature, je regrette. Voyez, alors là, on voit l'influence de Kant. Il n'a pas dépassé. Alors, on a une coupure entre la nature, ce qui est déterminé en nous, et puis le transcendantal, qui est l'intelligence et la volonté. Alors que mon intelligence et ma volonté émanent de mon âme, et mon âme fait partie de ma nature humaine. Et c'est là l'erreur. C'est pour ça que je vous prends ces passages. Parce que là, on voit très bien comment Maritain, après, va distinguer l'individu et la personne. Vous voyez, c'est intéressant d'avoir cette évolution, puisque bon, c'est quand même quelqu'un qui a très bonne volonté. Maritain, très bonne volonté. Ça, c'est sûr, d'être thomiste, d'aller dans un thomisme qui s'ouvre à la pensée moderne. C'était le souci de Maritain, ça. De réintroduire Thomas d'Aquin dans l'université à Paris. Ça, il y a eu Maritain et Gilson, tous les deux, des personnes de très bonne volonté, qui, au milieu de ce siècle, on peut dire, au milieu de ce siècle, ont voulu l'un et l'autre, par l'histoire, par la réflexion philosophique et métaphysique, réintroduire Thomas d'Aquin. Et l'un et l'autre ont saisi quelque chose qui est intéressant et juste. Ils ont saisi que, de fait, le problème de la personne était comme un problème qu'on devait regarder d'un point de vue métaphysique. Gilson à sa façon, Maritain à la leur. Leur erreur, je crois, leur erreur, c'est de considérer que la métaphysique de Thomas d'Aquin n'est pas celle d'Aristote. Ils ne connaissent pas Aristote, ni l'un ni l'autre. Alors, ne connaissant pas Aristote, ils ne voient pas ce qu'il y a de tout à fait net et nouveau dans la pensée de Thomas d'Aquin. Vous voyez, ils conçoivent encore Thomas d'Aquin d'une manière qui peut être trop proche d'Avicenne. Je crois qu'il y a quelque chose là qu'ils n'ont pas saisi. Alors, Maritain saisit d'abord l'opposition, la distinction entre personne et nature. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? C'est qu'il y a un élément, comme il dit, transcendantal. Un élément transcendantal qui fait que la nature éclate et ça devient la personne. Mais on est fait de pièces et de morceaux. Parce que c'est ici. Puis alors, de là, réfléchissant, il va dire individu et personne. Vous voyez, la nature chez moi est individuée. J'ai une nature individuée qui n'est pas ma personne. Et là, ça, c'est encore une vision de Thomas d'Aquin prise dans son traité sur le Verbe incarné, le Christ. Quand vous réfléchissez au point de vue théologique sur le mystère du Christ, vous voyez que le Christ a une nature individuée. C'est sûr. Le corps du Christ a été formé en Marie. Et l'âme du Christ a été créée par Dieu. Il a une nature individuée. Et sa personne est divine. C'est le Verbe de Dieu. Bon, appliquez ça au mystère du Christ. Vous avez la personne qui est le Verbe. Fils bien-aimé du Père. Personne divine, infinie, et la nature individuée. Dans le mystère du Christ, la nature individuée est autre chose que le Verbe. Et pour Maritain, puisque le Christ, c'est l'homme parfait, c'est bien évident, c'est donc cette distinction que je vois en théologien, dans la lumière de la foi. va éclairer sa métaphysique. Personne, individus sont distincts. Je crois que c'est là l'erreur. Vous voyez, c'est quand, exactement comme quand quelqu'un que je connaissais bien, le père Gérard, qui était matheux, donc toujours un peu néoplatonicien. Un matheux est toujours un peu néoplatonicien. Et disait, grâce au mystère de la très sainte Trinité, nous avions un nouveau concept de la relation, qui était la relation subsistante. Donc j'applique, je découvre en métaphysique un nouveau concept à partir de la foi. Or Thomas d'Aquin nous dit que la foi ne nous donne aucun nouveau concept. C'est vrai. Le mystère de la très sainte Trinité, c'est un mystère qui m'échappe, que j'adore, que j'aime, que je contemple. Mais je ne vais pas voir ce qu'est l'homme dans la lumière de la très sainte Trinité. Je peux le faire mystiquement. C'est comme ça que nous nous regardons dans la charité, dans la lumière de la très sainte Trinité. Mais ce n'est pas philosophique. Au plan philosophique, je dois regarder l'homme tel que j'en ai l'expérience. Je saisis la complexité de l'homme, je saisis la grandeur de l'homme, je saisis la faiblesse de l'homme. Au plan métaphysique, donc au plan purement philosophique, la distinction que fait Maritain entre personne et individu, pour lui, ça l'éclaire énormément au point de vue politique. Et c'est là où on voit l'erreur apparaît immédiatement. Il dira, la personne est au-delà du point de vue politique. L'homme, en tant que personne, n'est pas soumis à l'autorité politique. Tandis que l'homme, en tant qu'individu, il est parti. Il est parti d'un tout. Le bien commun, c'est un tout. Il est parti d'un tout en tant qu'individu, il est soumis au tout. Vous comprenez que cette distinction que fait Maritain, de cette manière-là, elle est fausse. Saint Thomas dit homo, ut homo, es pars civitatis. L'homme comme homme est parti de la cité. C'est évident que c'est en tant que personne. On est président de la République. Ce n'est pas en tant qu'individu. Pauvre président de la République, c'était uniquement l'individu. Non, c'est en tant que personne. Il pose des actes dont il a la responsabilité comme personne. Donc la personne humaine, elle fait partie de la cité. Je suis citoyen dans ma personne humaine et dans mon individualité. Tous mes actes humains sont personnels et individuels, c'est sûr. Ma personne est individuelle. Ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de juste dans cette vision de Maritain, c'est que la personne fait appel à ce qu'il y a d'ultime dans ma nature humaine, l'intelligence et la volonté. C'est par là que je suis un être moral. Ce n'est pas un élément transcendantal à ma nature. Vous voyez ? Si l'intelligence et la volonté sont un élément transcendantal à la nature, alors je comprends la distinction entre individu et personne. Mais si ma nature humaine, en tant que nature humaine, implique le point de vue de l'intelligence et de la volonté, ma nature humaine est individuée. Et mes actes d'intelligence et de volonté sont mes actes personnels, mais d'une personne individuée. Je ne fais pas la distinction entre mon individu et une personne, dans le concret. Je suis une personne unique, originale. C'est même ce qu'il y a de très particulier, on le verra tout à l'heure, c'est que je suis unique. Personne ne peut me remplacer. Et chacun d'entre nous, c'est unique. Au point de vue de ma nature, ben, je baigne dans la nature humaine. Et tous ceux qui ont la nature humaine ben, peuvent me remplacer. Je suis un individu dans la série. J'aurais pu très bien ne pas naître. Je suis un individu dans la série. Je suis né à tel moment, mais la roue de l'histoire fera que... C'était le père de Haut qui disait, faut pas mourir trop vieux, parce que très vite, on vous oublie. Tandis que si on meurt très jeune, oh, ça fait un trou. C'est très joli comme réflexion. Et c'est juste. Parce que quand on est trop vieux, ben, vite qu'ils disparaissent pour que les jeunes prennent leur place. Et c'est normal, ça. Parce que de fait, il y a comme la personne individuelle, elle est dans le temps. La personne individuelle est dans le temps. Elle n'est pas un élément transcendantal. Mais qu'il y ait en moi quelque chose qui échappe à l'aspect politique, c'est vrai. Alors c'est là où la distinction n'est pas nature et personne. C'est regarder dans la personne humaine le point de vue de la finalité. Ma finalité. Individuel échappe au bien commun. C'est-à-dire est au-delà du bien commun. Ma contemplation, ma vocation religieuse ne fait pas partie immédiatement du bien commun politique. Vous n'allez pas apparaître dans le journal officiel parce que vous avez fait une profession solennelle, perpétuelle. Non. On ne va pas dans le journal officiel dire « il a reçu l'ordination ». Non. C'est la fin personnelle, au sens rigoureux. Et tout ce qui touche la fin personnelle et individuelle est au-delà du bien commun. C'est très curieux. Et alors c'est ça que Marie a oublié. Il a voulu voir la distinction entre personne et individu. Et alors à ce moment-là, il ne voit pas suffisamment que la personne s'enracine dans l'individu, ce que nous essaierons de voir. Mais ce qu'il faut retenir de Maritain, et ça c'est quelque chose d'important et d'intéressant à voir, c'est qu'il a eu le courage, à son époque, face à la scolastique, et en présence de la scolastique, de considérer que le problème de la personne est un problème métaphysique. Mais, comme je pouvais dire au père de Haut que Maritain s'était trompé entre personne et individu, le père de Haut s'est mis à éclater de rire. Quand j'ai dit ça, il m'a dit, mais c'est moi qui lui ai dit de creuser ça comme ça. Alors l'erreur venait de lui. Et là, quand je lui ai dit, mais c'est faux, il faut prendre par le point de vue de la finalité, il m'a dit, c'est vrai. Il ne faut pas se servir de la théologie pour perfectionner la métaphysique. Il faut reprendre le problème au plan philosophique pour découvrir au plan philosophique qu'est-ce que c'est que la personne. Vous voyez ? Alors, l'erreur de Maritain est très intéressante. Parce qu'elle nous montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est toujours intéressant, ça. Parce qu'on ne tombe pas dans l'erreur, dans le piège. L'erreur de Maritain est très intéressante pour nous montrer qu'il y a un problème métaphysique de la personne qu'on n'a pas traité. Et que la scolastique n'a pas traité. C'est là où on voit la paresse des philosophes. On répète. Alors qu'il y a un problème nouveau qui est ancien, puisqu'il date de Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin l'a très bien compris. Mais Thomas d'Aquin n'a pas eu, vous voyez, quelque chose qui a été repris. La scolastique dépend de Suarez. La scolastique, c'est saisir la métaphysique de saint Thomas à partir de sa théologie. Or, je ne peux pas saisir la philosophie de saint Thomas à partir de sa théologie, puisque le théologien... chien se sert de la philosophie. Comment voulez-vous saisir la sagesse philosophique en tant qu'elle est servante de la foi? Le serviteur n'est pas le sage. La sagesse implique une certaine autonomie parce qu'elle découvre une finalité. Mais c'est le problème de la finalité qui va me permettre de saisir vraiment ce qu'est la personne, ce que Maritain n'a pas saisi. Il a voulu saisir la personne à partir d'un élément transcendantal. Et si on saisit la personne à partir d'un élément transcendantal, on ne saisit pas ce qu'est vraiment la personne. Je n'entre pas plus, ceux qui veulent s'intéresser à Maritain, et ça vaut la peine du reste. Faut pas trop lire Maritain. C'est intéressant de jeter des coups de sonde, parce que vous allez vous engouffrer dans quelque chose qui est intéressant, mais qui n'implique pas d'analyse, de véritable analyse philosophique. Alors, Maritain donne un coup de fouet. Allez, va, avance. Les sept leçons sur l'être. C'est quand vous lisez les sept leçons sur l'être de Maritain, vous voyez que Maritain commence la métaphysique par les transcendantaux. Or, les transcendantaux sont un point de vue critique et non pas un point de vue métaphysique. Donc je commence par un point de vue critique. À ce point de vue-là, je n'arriverai pas à dépasser Kant, qui commence par la critique. Et je resterai conscient. C'est pas commode de dépasser Kant. Si je ne vois pas ce qui échappe à la critique, je ne dépasserai jamais Kant. Si je mets la critique en premier lieu, je resterai conscient. Et c'est un petit peu le défaut de Maritain. Parce que l'élément transcendantal, c'est justement saisir quelque chose qui échappe à la critique. Mais l'élément transcendantal est... Les éléments transcendantaux, je n'en ai pas l'expérience immédiate. J'ai l'expérience que je pense. Mais ce n'est pas transcendantal quand je pense. Je peux vous dire, ce cours de métaphysique, il est transcendantal. Mais non, c'est un cheminement humain à partir de l'expérience. Bon, je n'insiste pas plus sur Maritain. Il y a Mounier, qui est avant Maritain du reste, qui lui a posé le problème de la personne par le point de vue politique. Mais Mounier n'était pas un philosophe. Mounier était un homme spirituel qui comprenait très bien comment il fallait essayer de répondre à toute politique totalitaire. Quelle est l'erreur d'une politique totalitaire? L'erreur d'une politique totalitaire, c'est de ne pas respecter que la personne humaine est au-delà de la politique. Alors, ça a été le grand problème de Mounier. Et on comprend très bien, devant certaines montées politiques totalitaires, le marxisme, ou le point de vue de Mussolini en Italie, en face de ça, comment échapper à cet aspect de totalitarisme, de faire de la politique l'absolu? La politique n'est pas un absolu. La politique est au service des hommes pour que les hommes puissent découvrir leur propre finalité. La vraie politique, c'est ça. Mais ce n'est pas la politique qui va préciser à l'homme son bonheur. Quelle est sa finalité propre? C'est là l'erreur. Alors Mounier veut essayer de découvrir comment la personne humaine est au-delà du point de vue politique. Vous voyez, c'est là où il y a un lien entre Maritain et Mounier. Parce qu'au fond, je crois que Maritain a le même souci. Maritain est plus un libéral qu'un la personne. Ça, c'est très net. Chacun d'entre nous. Nous avons chacun d'entre nous une expérience directe, immédiate de je suis. Alors prenez au sérieux cette affirmation je suis. Non pas cogito ergo sum, mais je suis directement. Parce que si vous prenez au-delà du je suis le cogito, le je suis sera vu relatif au cogito. Et si le je suis est vu relatif au cogito, vous n'atteignez plus directement l'être. Vous atteignez votre je suis à travers votre cogito. C'est très bien, c'est très vrai que le cogito sert à comprendre le je suis. Quand je dis je suis, je fais un acte d'intelligence. Vous êtes bien d'accord? J'ai conscience que je suis. Je m'éveille à cette expérience très radicale, très fondamentale du je suis. Et je distingue tout de suite le je suis du moi psychologique. Et ça, c'est important. Le moi psychologique, ce sont mes états psychologiques. Je suis de bonne humeur ce matin. Bien qu'il pleuve, je suis de bonne humeur ce matin. La pluie me réveille de bonne humeur. Alors que le soleil, trop violent, me fait me cacher. Je suis au contraire de mauvaise humeur. C'est toujours moi. Hier, on m'a dit une catastrophe. J'ai mal dormi. Ah, je suis de mauvaise humeur. C'est terrible ce qui se passe. Une catastrophe. Le moi psychologique qui prend des états différents. Vous touchez, tâtez le pouls. Il y a quelqu'un dans la communauté que je ne peux pas supporter. Or, première chose que j'ai fait ce matin en sortant de ma cellule, c'est de le rencontrer. On s'est dû, évidemment, mais ça m'a bouleversé. Si ça avait été un autre que j'avais rencontré, oh, ça aurait été tout à fait différent. C'est vrai, mon moi est comme ça. Hein. Petite balance de pharmacien qui doit être sous cloche. Il y a des mois qui sont comme ça. Rien m'émeut. Une bonne nouvelle, c'est merveilleux. Une mauvaise nouvelle, c'est effrayant. Alors je couche tout de suite. Puis il y a des mois qui sont des mois. La grosse bascule de la place qui ne bouge qu'à partir de 100 kilos. Il y a des mois comme ça. C'est le gros camion qui passe. Laissez-moi la place. Autrement, je vous écrase. C'est moi. Oui, ça c'est le moi psychologique. Il y a le moi psychologique du petit moineau. On est tous un petit moineau. On aime de voler. Et puis il y a le moi psychologique de l'éléphant. Il y a un éléphant en nous. On est parents avec l'éléphant. Puisqu'on est un animal, génériquement. On est parents avec l'oiseau. Le moi psychologique, il fait toutes les nuances. Si je regardais le moi psychologique de tous les novices, j'aurais toute la gamme. J'en suis sûr. Je me souviens, j'étais très peu de temps permettre, mais je l'étais un tout petit peu. Alors il y a un bon médecin psychologue qui m'a dit, mais c'est merveilleux. Vous avez l'avantage énorme d'avoir un atelier psychologique étonnant. Numéro un. Voyez ça. Vous vivrez pendant un an avec eux. Vous pourrez avoir une fiche sur chacun et tous les jours, vous préciserez. Alors je les regardais, j'ai dit non, je ne suis pas permettre pour être psychologue. Je suis permettre à leur service. Et je ne me sers pas d'eux. Tandis qu'en étant psychologue, je me servirai d'eux. En ayant la fiche sur chacun d'eux et en pouvant préciser les réactions premières, les réactions plus fondamentales. Vous devez la psychologie de chacun. Non. La psychologie, très bien. Mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche quelque chose de beaucoup plus profond. que c'est que la personne. Là, vous voyez, il faut distinguer le moi psychologique et le je suis. Ce n'est pas si commode. Le je suis assume le moi et le moi n'assume pas le je suis. Le je suis, c'est l'expérience que je fais de mon existence propre. Je suis un être unique. Voyez l'individu, un être unique. Personne ne peut avoir l'expérience que j'ai quand je dis je suis. C'est très curieux, ça. Je sais que mon voisin peut avoir la même expérience quand il dit je suis, mais son je suis n'est pas le mien. C'est vrai. Et ce je suis demeure irréductible à mon voisin ou à ma voisine. C'est quelque chose d'irréductible. Le je suis saisit ce qu'il y a de plus individuel en moi et de plus personnel en moi. Tout de suite. Cette expérience de mon je suis a quelque chose d'unique. Absolument d'unique. C'est que je peux, grâce à cette expérience du je suis, saisir l'être de l'intérieur. Ah ! C'est ça qu'il y a de particulier. C'est vrai. Ma vie, c'est mon exister. Et c'est mon exister que je saisis dans ma vie. Je ne sépare pas les deux. Je peux distinguer mon être et ma vie, mais de fait, ma vie, c'est mon être. Mon être, c'est ma vie. Dans tout ce que je suis un vivant. Je suis un vivant dans mon toucher qui se fait par mon corps. Je suis un vivant en prenant le bol de thé ou de café. Je suis un vivant quand je me nourris. Je suis un vivant quand je dors. Je suis un vivant quand je travaille. Je suis. Mon je suis est quelque chose de radical et qui me permet, alors c'est ça qui est tout à fait particulier, qui me permet d'avoir une connaissance de l'être dans ce qu'il a de plus concret. Parce que quand je suis parti de ceci et, c'est quelque chose de très universel. Ceci est, oui, je suis et je fais partie du ceci est. Mais je ne vois pas, en regardant ceci est, ce qu'il y a de tout à fait original dans l'être existant, dans l'être singulier. Quand je dis je suis, je saisis tout de suite l'être singulier, dans sa singularité. Mais je saisis cette singularité dans mon être, en dehors. Donc je la saisis comme me mettant en présence de quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'unique quand je dis je suis. Et quelquefois, ce qui me séduit le plus, ça me séduit de voir que je suis unique. Et que j'ai mon originalité, et que personne ne peut enlever cette originalité. Je suis. Et je ne suis pas l'autre. Et l'autre ne sera jamais mon je suis. Alors est-ce que c'est l'autre qui me fait connaître mon je suis, ou est-ce que c'est moi qui me fait connaître l'autre ? Ah, grave problème. Ben, je dirai attention, mon expérience de mon je suis est unique. C'est pas le je suis de mon voisin qui me fait connaître mon je suis, pas du tout. C'est mon je suis qui me fait connaître le je suis de mon prochain, puisque de mon voisin, puisque justement je ne peux pas être dans cette situation pour connaître de l'intérieur son je suis. Je le regarde de l'extérieur. Et si je regarde le je suis de mon voisin de l'extérieur, je ne le saisis pas du tout au point de vue de l'être. Je saisis sa manifestation. Il se manifeste comme ça, mon voisin. C'est curieux, il s'assied toujours de la même façon. Et moi, je me cite d'une autre manière. Et je fais partie de mon expérience, de mon être. Il est comme ça. Vous voyez, mon je suis a une intériorité unique qui me permet de saisir l'être de l'intérieur. Alors que dans l'affirmation « ceci est », j'affirme quelque chose qui me dépasse et que je ne peux pas saisir de l'intérieur. Alors ça, c'est l'affrontement que je dois faire en moi entre ces deux affirmations « ceci est, je suis ». Cet affrontement, il est très simple. Et il est très profond, il est très radical. C'est que quand je dis ceci est, je touche quelque chose qui me transcende. Parce que l'existence du caillou n'est pas mon existence. Et donc le caillou s'impose à moi comme un existé original. Et quand je dis je suis, je saisis un être concret. Et je le saisis de l'intérieur. Je le saisis comme un être unique. Et je le saisis à ma manière. Et personne d'autre ne peut le saisir comme ça. Alors voyez, je vois qu'il y a tout de suite deux expériences de l'être irréductibles. Irréductibles, oui, et pourtant très liées. Pas séparé. C'est deux expériences de l'être. L'expérience de la transcendance de l'être. L'expérience de l'immanence de l'être. Alors qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est second? C'est intéressant. Deux expériences irréductibles. Est-ce que je peux dire qu'il y en a un premier? Oui, selon l'ordre génétique. Ceci est. C'est premier. Selon l'ordre de perfection, mon je suis est quand même une connaissance de l'être très particulière, très intime, très personnelle. C'est là où je saisis ce qu'il y a d'unique dans ma personne. Je suis. C'est très personnel. Et donc, d'une certaine manière, mon je suis a une perfection que n'a pas l'affirmation ceci est. Mais je ne peux jamais séparer mon je suis de ce qui est. Et donc, je suis en présence de deux expériences qui, toutes les deux, m'aident à saisir l'être de la manière la plus profonde qui soit. Et si je sépare, j'en arrive à ces conclusions de Sartre. L'être en soi, l'être pour soi. Vous voyez qu'on est là tout proche de la pensée contemporaine. L'être en soi, c'est le manche à balai, dit Sartre. Ça n'a aucune originalité. C'est ceci. L'être pour soi, c'est la conscience. Je suis. Et il sépare les deux. Et pour lui, l'être en soi, ça n'a aucun intérêt. Et l'être pour soi, ça a un intérêt. Je ne dis pas ça du tout. Je dis que je suis n'est pas saisi contre ceci est. Et ceci est n'est pas saisi contre le je suis. C'est tout simplement parce que ma connaissance est une connaissance qui se fait à partir de l'expérience extérieure. Et une connaissance qui se fait à partir de l'expérience intérieure. C'est donc deux connaissances qu'il ne faut surtout pas opposer dialectiquement à la manière de Sartre. Mais qu'il faut au contraire saisir en profondeur en comprenant deux modalités particulières. C'est à partir de là qu'on peut alors comprendre que le « je suis » est une expérience philosophique.